Vous entrez dans les ateliers de la nuit. L'atelier du son est rugueux et sans concession ce soir. Dans la deuxième partie, il sera question d'un rituel, d'un passage sans retour possible, avec une pièce en trois temps d'Yvan Etienne qui sort ces jours-ci sous la forme d'un disque. L'objet a pour titre « Feu » et porte bien son nom. Feu comme un départ de feu, comme feu partez. Ça commence dans la violence rentrée et la noirceur de la nuit, pour terminer dans la lueur de l'aube. Dans la première partie, tout de suite, l'absence de concession sera celle de Jean Dubuffet. Un artiste tout entier dédié à son art, à ses recherches, à ses écrits, à sa peinture, à sa sculpture et à ses essais sonores et musicaux. Lui qui disait chercher une musique où la parole est retirée au chanteur exprimant ses humeurs affectives ou passionnelles et restituée aux rumeurs cosmiques livrant leur bruit sauvage. C'est de cet aspect de son travail, moins connu, que Thomas Baumgartner et ses invités s'intéressent à quelques mois des 30 ans de la disparition de Dubuffet et dans le cadre de la semaine art des ateliers de la nuit. Nous entrons dans les rumeurs cosmiques.
L'émission qui commence a deux origines. La première, c'est un anniversaire à venir. Les commémorations, ça rassure, ça fera bientôt 30 ans que Dubuffet est mort. L'autre origine, c'est une note de bas de page trouvée dans un livre américain où on précisait l'identité de Dubuffet, Jean Dubuffet, fameux musicien électroacoustique connu aussi pour son œuvre de peintre. Ah oui, ça, oui, Jean Dubuffet, 1901-1985, fut aussi connu pour sa peinture. Dubuffet, l'homme de l'art brut, celui qui dénonçait l'asphyxiante culture, au profit de quoi ? Au profit du mouvement initial, hors du savoir-faire normé, patiemment appris. À ça, Dubuffet préfère la peinture des asiles, celle des prisons, la peinture des autodidactes. Il préfère l'amateur au professionnel, il se déconditionne, il est anticulturel. Ah oui, peintre, il l'est, sculpteur aussi, écrivain, écrivant beaucoup sur sa pratique. Et musicien, homme de son, oui, aussi. Aussi, mais pas avant tout, contrairement à ce que disait cette étonnante note de bas de page. Mais il a cherché, il a expérimenté le son. Bonsoir à vous, vous êtes sur France Culture, c'est l'atelier du son. Bienvenue. Sophie Duplex et Guy Marquinan sont avec nous ce soir pour parler de Jean Dubuffet. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Sophie Duplex, vous êtes conservatrice en chef des collections contemporaines au Musée national d'art moderne de Paris, c'est-à-dire Beaubourg, je ne me trompe pas. Voilà, vous avez notamment été commissaire d'une exposition intitulée « Une histoire du son dans l'art du XXe siècle », voilà, qui nous intéresse. Et vous avez dirigé avec Sophie Webel le premier cahier de la Fondation Dubuffet, c'était en 2006, et qui est précisément consacré, ce cahier que j'ai là, aux expériences sonores et musicales de Jean Dubuffet. Guy Marquinan, vous êtes l'homme du label Sub Rosa, vous êtes en duplex avec nous depuis Bruxelles, et vous avez édité sur le label Sub Rosa, Coucou Bazar, un double CD comprenant la bande-son successive, on va dire, de cette œuvre assez fondamentale de Dubuffet. Donc, Coucou Bazar, merci donc encore une fois à l'un et l'autre d'être avec nous. L'attitude de Dubuffet, dont on entend en ce moment, ça a ouvert l'émission, une pièce issue de Coucou Bazar, avec sa voix à lui, à Jean Dubuffet. Son attitude face à la musique et face au son, c'est quoi, Sophie Duplex ?
Alors son attitude face au son et à la musique, elle est vraiment, et c'était l'objet du développement de ce cahier d'archives que vous avez évoqué tout à l'heure, cette attitude, elle est vraiment liée, intrinsèquement liée à l'attitude qu'il a vis-à-vis de sa peinture. Donc là, c'est le cœur de la question. Donc la musique que Dubuffet va réaliser en plusieurs étapes, les expériences qu'il va mener vont toujours être conduites en étroite relation avec des pensées qu'il développe sur sa peinture. Et il y a une espèce de correspondance qu'il va essayer d'établir entre les deux.
Alors Guy Marquinan, c'est le même mouvement face à la peinture et face à la musique?
Oui, j'ai vraiment ce sentiment-là aussi, bien sûr. C'est valable pour Dubuffet totalement. Où écrit, musique, dessin, sculpture, à mon avis, part du même flux créateur qui transcende les catégories. C'est-à-dire. Les catégories préétablies. Voilà. Je vois ça comme une sorte de flux. Donc. Et cela, disons, je le vois à nouveau également dans l'œuvre de Kurt Schwitters, par exemple.
Collage, alors, dessin, c'est antérieur, c'est dada
oui, allemand. Oui, c'est antérieur, oui, bien sûr. Mais c'est pour moi, disons, le même flux, le même apprentissage, disons, des différentes catégories. Et on pourrait dire aussi que Burroughs, William Burroughs, qui l'a fait bon, de façon presque contemporaine, puisque ses expérimentations sonores datent du début des années 60, même en 59, ou déjà en 60, et puis jusque dans les années 70. Alors là, on a aussi l'écrit, la peinture, le collage, l'expérimentation sonore. Pour moi, ce sont voilà, exemples de trois artistes qui transcendent totalement les catégories, qui agissent, à mon avis, par un angle totalement différent, non spécialiste, si vous voulez, et ça crée quelque chose d'inédit.
Volontairement non spécialiste, c'est ça, hein, c'est revendiqué, ça, chez
Dubuffet. Oui, tout à fait. Oui, mais par exemple, voilà, un autre exemple, mais on pourrait dire Pasolini et le cinéma. Voilà. Donc, il aborde le cinéma avec une énergie, une création énorme, mais en tant que non spécialiste.
Et sans complexe.
Voilà, on ne peut pas, en principe, ça, oui, c'est, donc, ça. C'est le béaba du cinéma, faire suivre un plan général d'un très gros plan. Lui, il le fait. Voilà. Et je pense que cet acte créateur est d'une importance capitale chez Dubuffet, chez Schwitters et chez Burroughs.
Sophie Duplex, qu'est-ce que vous dites de ces ponts rapidement établis par Guy Marquinan, Dubuffet, Schwitters, Burroughs?
Oui, je pense qu'ils sont très justes. Ce sont des ponts qu'il est tout à fait intéressant et pertinent de faire. Et d'un autre côté, je trouve ça amusant par rapport à la figure de Dubuffet, parce que précisément, Dubuffet était vraiment celui qui n'aurait jamais cité d'autres artistes, puisqu'il considérait vraiment son œuvre comme se développant pratiquement indépendamment. Alors bien sûr, vous avez cité l'art brut, et là, lui-même n'est pas un artiste de l'art brut. Hein, ça, je le rappelle, parce que le grand public ne comprend pas. Pas toujours cette nuance, mais il a promu, donc inventé ce terme, et promu des artistes donc de l'art brut qui n'avaient aucune formation.
Lui en a un, il a fait les Beaux-Arts.
Lui, il a une formation, puis c'est un artiste extrêmement cultivé, enfin, il a regardé la peinture, bien sûr. Et en revanche, il considère vraiment toujours son œuvre comme une espèce de tout dans lequel ne s'infiltrent pas d'autres influences. Et je crois que là, effectivement, son approche à Dubuffet, il la développe à l'intérieur même de son œuvre, et son discours consiste vraiment à élaborer cette représentation du monde donc qu'il se fait, qu'il essaie de transmettre, qui est celle d'un monde qui finalement est limité par la culture, parce que nous nommons les choses, nous leur donnons des noms, nous les nommons, nous les identifions visuellement. Alors évidemment, ça se rattache au débat entre abstraction et figuration, alors que finalement, il y a plein d'autres choses entre deux points que l'on peut voir, ou deux choses que l'on peut nommer, il y a plein d'autres choses, et c'est cette autre chose qu'il essaie d'aborder tant dans la peinture, notamment quand il travaille sur sa série autour des sols, des visions rapprochées de la matière. Donc cette vision, il va l'appliquer à la musique. Et il va essayer de concevoir une musique qui permettrait d'entendre ce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, ce qui n'est pas identifié, donc les sons de l'au-delà, de ce monde vibrant qui nous entoure de façon sonore et que nous ne percevons pas.
As-tu cueilli la fleur de barbe sur la mi-côte? C'est le printemps, et voici que la barbe reverdit. Sans tisse le fil un lundi à la fin de la semaine, sans barbe tout le pays. J'ai parcouru le lit de la barbe au menu ni en route de silence et de nuit. Mes pieds se sont épanouis dans la tiède laine, nourrie de tes souvenirs.
La fleur de barbe, 1961, donc Jean Dubuffet, décembre 1960 précisément, parce que c'est drôle, à l'instant, Guy Marquinan, vous citiez une date en parlant de William Burroughs, 59-60, et grosso modo à la même période, précisément même en décembre 1960, il y a un moment un peu clé quand on veut parler des expériences musicales et sonores de Jean Dubuffet, c'est qu'il se retrouve devant un magnétophone, puis il fait des essais, Sophie Duplex.
Absolument, alors tout commence comme ça, effectivement en décembre 1960, il est avec son ami peintre Asger Jorn, qui s'intéresse beaucoup à son travail, notamment autour des phénomènes, qui sont une série de lithographies, donc, qui sont un travail justement sur la matière. Et ils commencent tous les deux à faire des expériences musicales. Alors, en effet, ils ont un magnétophone et ils utilisent toutes sortes d'instruments, un répertoire très, très large d'instruments, à la fois savants et exotiques, bricolés. Et ils essaient de composer une musique qui soit vraiment en écho au travail plastique, pictural de Dubuffet à l'époque.
Alors, ce qu'on entend là, ce qu'on vient d'entendre, la fleur de barbe, on est presque plus Guy Marquinan. On peut dire que c'est de la poésie sonore. On sent le jeu avec les différentes pistes du magnétophone, dont il est écrit plusieurs fois que, et c'est Dubuffet qui écrit, que c'était un Grundig T435. Donc voilà, ça c'est pour les historiens d'art et de la technique.
C'est écrit sur la pochette d'ailleurs.
C'est écrit, oui, sur la pochette dessinée par Dubuffet lui-même. Oui, c'est de la poésie sonore, on peut dire ça.
Oui, entre autres, mais c'est-à-dire qu'on peut aussi dire que c'est une forme de musique concrète. Voilà, d'autres pièces sont vraiment de la musique improvisée avec instruments divers. Bon, voilà, soit seul, soit à plusieurs. La plupart du temps, ce sont des non-musiciens. Mais en fait, quand on lit les notices un petit peu attentivement, principalement disons des pièces qui ne sont pas encore sorties, on s'aperçoit que un jour en 60, quelque part à Paris, dans un studio, il y avait Jean Dubuffet et Henri Michaud qui étaient dans le même studio et qui improvisaient. Ça, c'est une chose quand même incroyable, quoi.
Ça vous fascine?
Ah oui, tout à fait, parce que bon, comme on ignore totalement, disons, la voix même d'Henri Michaud, lui qui s'est toujours, a toujours fui, disons, voilà, toute interview, ouais, etc. Donc là, les imaginer tous les deux comme ça, c'est, je trouve ça extraordinaire, quoi.
Sophie Duplex.
Voilà, mais oui, évidemment, non, oui, on ne cite que des non-musiciens. Voilà.
Oui, bah, je crois que la remarque est très juste. En effet, on ne cite que des non-musiciens, bah, parce qu'effectivement, Dubuffet fait venir les gens qu'il connaît, les proches, et puis ils improvisent. C'est ça toute la fascination de cette expérience qu'il mène, donc d'abord avec Asger Jorn, et puis après seul. Mm-hmm. Et d'ailleurs, ce qu'on écoutait tout à l'heure, La fleur de barbe, est quelque chose qu'il. Vraiment, un des premiers morceaux de Dubuffet seul à expérimenter. Et là, je crois que c'est assez caractéristique de justement ces deux pôles qu'on trouve dans ces recherches musicales. Il y a des paroles, hein, donc il y a quand même quelque chose qui est très humain. Et puis, il y a tout un fond, une espèce de magma comme ça, qui est la partie non humaine, les voix qui viennent de profondeurs inexplorées, justement, ces profondeurs que sur le plan auditif, on n'arrive pas à saisir. Mmh.
Et ce sont des infrabasses qui peuvent être les bandes-sons de certains tableaux les moins figuratifs de Dubuffet, qui datent à peu près de la même époque. Il y a une série, je crois, qui s'appelle « Sur la matériologie ».
Voilà, alors c'est ça. Donc ça correspond. Ces expériences musicales arrivent au moment où sont en train de se terminer toute une période entre, disons, 57 et 60, autour de ses travaux sur la matière que fait Dubuffet, où vraiment il représente sur la toile des grandes étendues de couleurs sombres, ou des pattes qui représentent des, comme ce serait des accidents de terrain, ou en tout cas une vision rapprochée la granularité de la matière. Donc ça vient vraiment en contrepoint, et on sent bien que ce sont les mêmes tentatives qu'il essaye d'expérimenter dans le domaine du son.
Donc un travail parfois solitaire, cette continuité par rapport à ce travail pictural, et puis de temps en temps collectif. Alors à l'instant, Guy Marquinon faisait mention de ce morceau où Jean Dubuffet et Henri Michaud se retrouvaient en face d'un micro qui est inédit, mais qui se trouve dans le CD qui accompagne justement ce catalogue expérience musicale, ce livre-là que vous avez co-dirigé, Sophie Duplex. Et sur le CD qui accompagne le livre, on parlait de musiciens, non-musiciens. Il se trouve qu'il y a un autre morceau qui s'appelle « Effronté ». Et sur Effronté, on trouve alors Asger Jorn, donc peintre danois, vous en parliez, voilà, qui était un peu l'initiation de cette série d'expériences musicales. Et puis Alain Vian. Alors ça, c'est aussi une époque. Alain Vian, c'est le frère de Boris Vian.
Oui, alors Alain Vian, il tenait un magasin d'instruments. Mm-hmm. Il avait donc c'est là que Dubuffet venait acheter ses instruments bizarres, rares, effectivement. Donc c'est ce personnage qui revient beaucoup par rapport aux instruments, que tout l'ensemble d'instruments que s'était constitué Dubuffet. Il parlait d'une cinquantaine d'ailleurs. Et beaucoup maintenant sont à la fondation Dubuffet. Certains sont restés, d'autres ont été donnés par la suite à la fondation. Mmh. Et donc ces instruments ont été exposés, notamment lors de l'exposition qui a eu lieu l'année dernière aux Arts décoratifs et qui a été concomitante donc à la sortie du disque Coucou Bazar, et qui était une exposition sur ce spectacle de Dubuffet, qui a été un moment extrêmement fort dans son parcours.
On va parler de Coucou Bazar. Guy Marquinon, avant ça, qui dit Vian, Dubuffet, Noël Arnaud, membre de l'Oulipo aussi dans les parages, dit pataphysique. Tout ça, c'est un travail pataphysique, cette science des solutions imaginaires.
Ah oui, peut-être bien, oui. Mais en ce qui concerne, on disait donc un mot sur la musique concrète, qui est en fait la musique qui se rapporte au travail autour de la bande magnétique. On sait que Schaeffer a tenté donc d'établir un alphabet par rapport à cette musique totalement nouvelle et inédite donc de l'après-guerre. Et je pense au contraire que Dubuffet, lui, a refusé tout alphabet et donc a voulu faire sans, c'est-à-dire hors des règles, hors d'institutions, mais surtout hors des règles.
Hors solfège, c'est ce que c'est. Parce que
oui, voilà. Et c'est ça, finalement, qui apparaît. Donc, je trouve que c'est d'une force absolument qui est conservée jusqu'à présent. Or que les premiers enregistrements, les premiers essais sur bande magnétique, etc., même de Schaeffer, n'ont parfois pas cette force, en vérité.
Ah justement,
c'est un paradoxe intéressant.
La bande magnétique, on a l'impression, mais vous allez nous le confirmer, que c'est aussi un des instruments sur les premiers essais de Jean Dubuffet, par exemple sur ce morceau intitulé « Siffle-vent ». Voilà, on entend le vent siffler, mais on entend peut-être aussi la bande magnétique, Sophie Duplex. C'est possible, ça, que dans ces premiers moments où il y avait la voix, des instruments, une utilisation un peu initiale, on va dire, des instruments, et puis d'un coup, là, ce son-là, C'est possible que ce soit...
Oui, ça ressemble beaucoup à de la bande magnétique. C'est certainement une expérience qu'il a tenté de mener avec cet outil, hein, qui, il faut bien se replacer dans l'époque, était quelque chose de complètement fascinant, qui offrait plein de possibilités. Et justement, pour développer une musique de cette nature, je crois qu'effectivement, Dubuffet a utilisé cette espèce de grincement, puis ce côté désagréable, hein, justement, il met ça beaucoup en avant. Ça ne doit pas être une musique agréable à l'oreille. Il faut faire fi de tout ça et être prêt à entendre tous les sons.
C'était quoi les instruments de Jean Dubuffet ?
Alors, il y avait tout un répertoire d'instruments qui allait d'instruments classiques comme le violon, la viole, jusqu'à des instruments exotiques. Il ne faut pas oublier qu'il avait passé du temps dans le Sahara, à une époque de sa vie, donc à la fin des années 40, et qu'il en avait rapporté une passion pour la musique exotique. Et puis, il y avait des instruments aussi fabriqués, bricolés, dont il enlevait les cordes ou qu'il modifiait pour qu'ils produisent des sons inédits. C'était vraiment ça l'idée, de fabriquer des sons inédits.
On le voit dans votre livre avec une flûte nasale, donc une petite flûte posée sur les narines.
Absolument, et dans un film, on le voit également jouer de cette petite flûte qui est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc des instruments, effectivement, qui viennent de régions aussi, même différentes, même de France. Voilà, tout était possible, tout était ouvert. Il y a cette liberté, il y a cette ouverture par rapport à tout ce avec quoi on peut faire de la musique.
Guy Marquinan, vous avez eu des échos de la collection d'instruments de Jean Dubuffet bien des années plus tard.
Oui, en effet, c'est un hasard totalement étrange, puisque un jour où nous étions, on avait rendez-vous à la fondation Dubuffet, et puis ce jour-là, au matin, nous avons été rencontrer Brunhilde Ferrari, voilà, que nous connaissons depuis plusieurs années, et on a fait un film sur Luc,
son mari Luc Ferrari,
depuis, ouais. Des liens, oui, Luc Ferrari, et donc on lui disait simplement, puis voilà, tout à l'heure, dans quelques heures, nous serons à la fondation, et là, elle m'a dit une chose assez étonnante, c'était un lien totalement inédit, c'est que un jour, dans les années 70, une camionnette a débarqué chez eux, remplie d'instruments. Et c'est Dubuffet qui avait envoyé tous ces instruments à Luc Ferrari. Voilà, en disant, voilà, tu en feras sans doute bien usage, bon usage, meilleur usage que moi, je ne les joue plus. Voilà. Et donc ces instruments sont restés dans le studio Muse en circuit, là où Luc travaillait. Ces instruments sont restés là plusieurs années. Puis finalement, Brunhilde et Luc Ferrari ont rendu, donc on fait don de ces instruments à la fondation.
Voilà, ce que vous disiez là, c'est
après,
fait,
voilà. Oui. Après avoir rencontré Sophie Webel, etc., donc à la Fondation, nous avons été voir François Bell, qui a succédé à Pierre Schaeffer, qui était à la tête du GRM pendant longtemps. Et il m'a dit qu'il avait mis en contact Dubuffet et Mimaroglou.
Ah oui.
Donc c'était en fait des rendez-vous qui n'avaient strictement rien à voir avec Dubuffet, mais il y avait des liens profonds entre les deux.
Alors effectivement, ce que vous dites, et ça nous permet effectivement d'avancer dans la conversation vers cette pièce, ce spectacle artistique Coucou Bazar, c'est que, évidemment, il y a la question de l'époque, les gens se mettent en présence, mais là, effectivement, il y a eu ce moment, cette collaboration de Jean Dubuffet avec un musicien électroacoustique, Ilan Mimaroglou, d'une part, et d'autre part, il y avait ce lien avec Luc Ferrari, parce qu'on parlait tout à l'heure de Pierre Schaeffer, donc les recherches sonores et d'images, et Pierre Schaeffer dirigeait le service de la recherche de la télévision. Il y a eu un film sur Jean Dubuffet par le service de la recherche. La musique était co-signée d'une certaine manière Dubuffet et Luc Ferrari. On aurait bien aimé la faire entendre ce soir, mais le film existe, hein, d'ailleurs, il est en lien sur le site de l'émission. Il est rendu disponible par l'INA et par le groupe de recherche musicale, mais le son est abîmé, donc un peu compliqué à faire entendre. Par contre, effectivement, cette collaboration électroacoustique entre Dubuffet et Ilan Mimaroglou, on peut la faire entendre, puisque c'est la première musique et le début d'une histoire qu'on va raconter, première musique de Coucou Bazar, et l'ouverture, c'est ça. Fragmentation, Ilan Mimaroglou, issu de la bande-son de Coucou Bazar de Jean Dubuffet, 1973, enregistré au Columbia Princeton Electronic Music Center. Donc, on parlait à l'instant un peu de l'école électroacoustique française, mais là, on est de l'autre côté de l'Atlantique, à une époque où Dubuffet connaît une certaine gloire aux États-Unis. Il y a beaucoup de commandes pour Dubuffet à cette époque-là. Si on se balade à Manhattan, dans le sud de Manhattan, il y a encore aujourd'hui une grande sculpture de Dubuffet au pied de la Chase Manhattan Bank. Voilà pour la période américaine. Et donc, Coucou Bazar, à ce moment-là, secret, c'est quoi ce duplex Coucou Bazar ?
Alors Coucou Bazar, ça s'inscrit dans un grand cycle que Dubuffet avait nommé Lourloupe, un grand cycle de peinture et qui évolue vers d'autres matériaux, commencé en 62 et terminé en 74. Donc Coucou Bazar, c'est un petit peu le point culminant de ce cycle. C'est une sorte de spectacle que Dubuffet a toujours du mal à définir et qui sera donné à deux reprises en 1973, une première fois au Guggenheim Museum
à
New York, à l'occasion de la rétrospective qui est dédiée à Dubuffet, et une deuxième fois la même année à Paris, au Grand Palais, dans le cadre du Festival d'automne et également de la rétrospective de Dubuffet, donc, qui se poursuit à Paris. Alors Coucou Bazar, c'est une sorte d'aboutissement des recherches de Dubuffet autour de l'ourloupe, qui était l'idée d'inventer un langage qui permettrait justement de concilier en quelque sorte abstraction et figuration, et de faire état de sa préoccupation qu'il avait de représenter le monde dans sa totalité et pas seulement ce que la culture nous a appris à nommer. Alors Coucou Bazar, ça, c'est donc l'ourloupe qui se développe en mouvement et en musique. Il crée pour ce spectacle, dans des grands ateliers qu'il l'obtient donc à Vincennes, il crée des costumes, des sortes de costumes qui ressemblent à des, disons, des, comme peut-être des combinaisons de cosmonautes. Et c'est pas anodin parce que on est au début des années 70 et les images des premiers pas sur la Lune sont pas loin. Et puis des espèces de peintures sur roulettes, de panneaux sur roulettes peints qui s'appellent des praticables, et le tout est censé se mouvoir de façon extrêmement lente sur une scène au son d'une musique qu'il n'ose pas composer lui-même dans un premier temps, et donc il s'adresse à ce musicien Mimaroglou qu'il connaît depuis 65 parce que ce musicien s'était mis en contact avec lui parce qu'il avait créé un morceau en hommage à une œuvre de Jean Dubuffet qu'il avait vue. Et donc, il avait soumis sa création à Dubuffet. Donc, les liens existaient déjà. Mm-hmm. Et au moment où Dubuffet cherche quelqu'un pour Coucou Bazar, il va faire appel, in fine, à Ilan Mimaroglou.
Voilà, ce compositeur né en Turquie, mais qui est un compositeur américain, voilà, on peut dire, et qui, alors dans le livre, dans l'expérience musicale, qui s'appuie sur une énorme documentation, puisque Dubuffet écrivait beaucoup, gardait beaucoup, et c'est, ça fait partie du fond de la Fondation Dubuffet aussi, qui vous sert, à vous, chercheurs.
Oui, voilà. C'est une mine extraordinaire.
Et on se rend compte que non seulement il y a effectivement des échanges cordiaux entre Mimaroglou et Dubuffet, il est aussi question d'un autre musicien qui est tchèque, lui, František Čaun, qui essaye d'intégrer aussi, sans forcément y arriver, à ce projet-là. Et il y a ces échanges, et au final, vous l'avez dit, il n'est pas totalement satisfait Dubuffet, même s'il a un certain enthousiasme pour certaines musiques. Mais au fond, ça ne lui plaît pas. Mais pourquoi ? Parce que ce n'est pas lui qui fait.
Ben, je trouve, parce que ce n'est pas lui qui fait, ça, je pense que c'est la première raison. on sent toujours dans ses écrits qu'il se sent un petit peu mal à l'aise par rapport à la technique. À la fois, il reconnaît l'intérêt de ne pas savoir utiliser les instruments et notamment manier le magnétophone comme il devrait le faire, parce que finalement, ça ajoute quelque chose à sa musique, à son côté, effectivement, expérimental, à toutes ces aspérités qui, justement, l'intéressent. Mais d'un autre côté, il comprend ses limites et donc il va s'adresser à Mimaroglou. Après, en effet, s'est adressé à un premier compositeur qui est d'une figure absolument pittoresque, František Čaun, donc ce compositeur tchèque avec lequel, malheureusement, il ne pourra pas aboutir les expériences donc menées à Paris. Il le fait venir. Donc Mimaroglou, effectivement, lui fera cette musique qu'on a entendu tout à l'heure, et je dirais que quand on l'entend, c'est assez clair que ça ne correspond pas à ce que Dubuffet voulait. Parce que c'est quand même une musique extrêmement recherchée. C'est vraiment une musique d'un compositeur de musique. Et elle me paraît extrêmement différente de ce que Dubuffet réalise.
C'est vrai que c'est précédent. Dubuffet dit de sa propre musique, elle est débraillée et sale. Voilà. On ne peut pas dire que la musique de Mimaroglou le soit. Alors dans le livre, il y a la reproduction de certains carnets, de certaines notes jetées sur le papier par Jean Dubuffet, Sophie Duplex. Là, je lis projet au pluriel. Un, tapoter sur la table avec les 10 doigts des deux mains. Micro très proche. 2. Agiter dans les doigts une feuille de papier calque de 25 x 16 mm. 3. Frottage d'une chaussure avec gants caoutchouc. 6. Frottage fil de la scie avec gants caoutchouc. Il était constamment... Est-ce qu'on peut dire qu'il était avec du son dans la tête constamment ? Je crois qu'il dit des choses de cet ordre-là à un moment donné. Il continue, même jusqu'à la fin de sa vie, à avoir une musique dans la tête, même s'il ne fabrique plus.
Oui, c'est vrai qu'il a cette musique dans la tête qui est la musique, qui est le son du monde, parce qu'il se place vraiment en artiste, en figure de l'artiste qui arrive à percevoir ce que nous autres, complètement aveuglés par notre culture, n'arrivons pas à percevoir. Mmh. Donc, il est effectivement complètement habité aussi par le son, par ce monde total. Et Coucou Bazar, précisément, vise à restituer ce monde total, puisqu'il parvient à nous montrer finalement un spectacle où on est face à une sorte d'immense peinture animée. Ce spectacle qu'on a devant les yeux est donc composé d'éléments qui se meuvent et qui forment une sorte de grouillement sur la scène, donc grouillement accompagné de cette musique de Mimaroglou, et puis en 78 de la sienne, qui en effet est peut-être plus juste quand on l'entend dans la continuité pendant toute cette durée de 1 heure qui était prévue pour le spectacle.
Grouillement, mouvement, tellurique, germination, ça, ce sont des termes qu'il utilise ou que vous-même utilisez d'ailleurs dans le livre Sophie Duplex pour parler des expériences musicales de Jean Dubuffet qui ont été le sujet de la première partie de l'Atelier du son de ce soir. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous, Guy Marquinan depuis Bruxelles. Merci. Et Sophie Duplex ici à Paris. Je rappelle donc Coucou Bazar, coffret 2 CD édité par Sub Rosa avec donc les différentes versions et notamment ce bal des leurs que vous vouliez entendre, Sophie Duplex. On va se quitter avec ce bal des leurs, cette déclamation de Jean Dubuffet. Les expériences musicales, c'est aussi ce premier cahier de la Fondation Dubuffet. Les expériences musicales ont aussi été éditées par Rumsti Pumsti et un autre label. On peut les entendre après ce soir. Voilà, on vous invite à le faire. Merci à tous les deux.
Rénove le classement des données du monde. qu'au cadastre correspond.
Je te lis
autrement
qu'au cadastre correspond.
Du fruit
cadastre correspond.
Tu les nommeras
autrement
choisi. Tu les traceras
en bas.
Je nommerai ton tournoi rond,
et
le fruit
a perdu de nouveau son poids,
perdu son poids,
ses mouvements.
Sur nos deux oreilles, c'est la chronique de Thomas Baumgartner dans l'atelier du son.
On parlait il y a quelque temps dans cette émission d'un livre où le compositeur John Cage était interrogé sur son amitié avec Marcel Duchamp, un petit livre intitulé « Rire et se taire » aux éditions Aléa. « Rire et se taire », ce titre était une manière de parler à la fois de l'entretien avec Cage, au cours duquel il rit souvent, et de sa propre relation avec Duchamp, dont on comprend qu'elle se passait beaucoup dans le silence, dans le sous-entendu. On comprend que Cage absorbait la présence de Duchamp, qu'il observait beaucoup. Aléa, encore une fois, sort ces jours-ci « No Silence » du musicologue américain Kyle Gann, un essai autour du 4 minutes 33 de John Cage. C'est en quelque sorte la biographie de cette pièce, ce fameux morceau où un pianiste s'installe devant son piano et interprète 4 minutes 33 de silence. L'une des œuvres musicales parmi les plus controversées, les plus inspirantes, les plus surprenantes, les plus infamantes, les plus déroutantes et les plus influentes depuis le Sacre du printemps d'Igor Stravinsky, je cite Kyle Gann, traduit par Jérôme Orsoni. 4 minutes 33 de silence, ou plutôt de non-silence, car le vide est rempli de tous les sons autour, ne serait-ce que notre propre respiration. Les sons de notre environnement constituent une musique plus intéressante que la musique que les gens entendraient s'ils allaient dans une salle de concert, disait John Cage. On n'a pas le droit de se taire. À la radio, on n'a pas le droit de n'émettre plus un bruit. Si jamais vous diffusez ce qu'on appelle un blanc numérique, donc une absence totale de son enregistré, une alarme va retentir au centre de modulation, l'endroit par lequel passent toutes les émissions avant de partir vers les antennes. Le silence ne doit pas exister. Pour autant, à la radio, on sait prendre soin du silence. On sait qu'il n'y a pas deux silences identiques. Le silence d'une pièce sera différent du silence de l'autre pièce. L'espace, la matière, l'air conditionné, la fenêtre ouverte ou fermée, la moquette ou le parquet, tout ça marque un enregistrement, même silencieux. C'est dire si le silence au singulier, ça n'existe pas. Dans le débat public, celui qui se tait, c'est celui qui s'est retiré. S'il ne parle plus, même si on le voit, cela signifie qu'il est parti. Il est absent. Être silencieux et présent, donc uniquement à l'écoute dans le débat public, c'est impossible. L'absence est possible, mais pas le silence. Le silence nous met à nu. C'est pour ça qu'il ne doit pas exister. S'il y a beaucoup de sons, de bruits, de notes, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Le silence est lucide, il permet de voir et d'être vu, il permet d'être à l'écoute et d'écouter nous-mêmes. Il est remis en cause. Dans ce livre, No Silence, on nous dit que 4 minutes 33 ne vient pas de nulle part. Il n'aurait pas existé sans Dada, sans Eric Satie, écrit Kyle Gann, mais selon lui, c'est aussi une forme de nouveau départ. Pas une table rase, mais une table nette. De jeunes compositeurs trouvèrent dans 4 minutes 33 une attitude plus libre à l'égard du son. Ceux qui ont pris 4 minutes 33 au sérieux ont créé plus tard le sound art et le minimalisme, par exemple. Ce silence impossible, ce non-silence de 4 minutes 33, fut pour une nouvelle génération une permission. Bonsoir Yvan-Étienne.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous depuis France Bleu Besançon, vous êtes compositeur, artiste sonore. Vous enseignez aussi au sein de la Haute École des Arts du Rhin à Mulhouse, et on ne se lasse pas de cet acronyme, H-E-A-R, hear, entendre, parce qu'effectivement c'est un pôle entre Mulhouse et Strasbourg important pour l'art sonore, pour son enseignement. Et Yvan-Étienne, vous sortez un disque, votre premier disque, Feu.
Oui.
Et
oui.
Feu, ça sonne comme un coup de fusil, mais aussi comme un départ.
Comme un départ et une fin aussi.
Alors, c'est-à-dire
voir ça comme ça. La manière dont j'ai constitué cet album, c'est comme un... Enfin, je considère cet album, cette idée de feu, c'est... Je considère un peu comme un principe actif de transformation. Une révolution, mais aussi une révélation. Je vais revenir un petit peu sur le contexte dans lequel j'ai réalisé cet album. Donc, j'ai réalisé cet album après la mort d'un proche, en fin de compte. Et j'ai essayé de traduire l'état généré par l'absence et en même temps l'extrême présence de cet être. Mmh.
Donc c'est vrai qu'il y a trois morceaux, trois pièces qui composent Feu. Une nuit, c'est le titre de la première. De la charge, c'est-à-dire de la deuxième, et la lueur. Donc là, on a commencé en écoutant la lueur. On fait une marche à rebours pour revenir sur cet album, sur ce disque. C'est ce chemin-là que vous décrivez, de la nuit à la lueur.
De la nuit à la lueur, mais c'est peut-être déjà la présence de la lueur dans la nuit, parce que donc, la nuit, c'est cette manifestation de l'invisible. Mm-hmm. Et en même temps, la révélation du visible, mais de notre présence, en fin de compte. Cette nuit qui nous ramène à notre présence, à notre intériorité, à notre secret peut-être.
Alors vous travaillez, ce qu'on entend sur les trois pièces, véritablement la matière, la vibration. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment autour de la vibration et de l'effet que cette vibration peut faire non seulement à nos oreilles mais au corps, à travers même les trois pièces.
Oui, comme je vous le disais, c'est quelque chose autour de... Enfin, c'est la question de l'état qui m'a vraiment intéressé. Et donc, j'ai ramené ça à une sorte de physicalité. Enfin, j'ai souhaité générer quelque chose d'assez physique, quelque chose qui peut se ressentir par la chair.
Par la peau.
Par la peau, oui. Mm-hmm. Et donc, par les résonances aussi, on pourrait... Résonances internes.
Pour rentrer dans la matière de cet album-là, vous jouez aussi avec nos oreilles. C'est-à-dire que vous jouez sur une forme... d'ambiguïté, de tension entre des sons numériques et des enregistrements de plein champ, enfin du field recording, comme on dit.
Oui, il y a donc des field recording, donc c'est un ensemble d'enregistrements que j'ai fait dans les 10 dernières années, dans des lieux différents, et puis des sons non pas numériques mais plutôt électroniques qui sont bien sûr numérisés par la suite, mais des sons électroniques, oui, générés par un synthétiseur analogique. Et puis un Serge Modular, en l'occurrence.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Serge Modular? Parce que à l'intérieur du disque, quand on ouvre la pochette, d'abord, il y a aussi là une vibration, puisque tout est écrit en vert vif sur fond rouge-orange. C'est-à-dire que ça vibre devant nos yeux, parce que c'est compliqué à lire, mais pas quand on arrive quand même à lire, que vous dites, voilà, vous jouez du Serge Modular, et puis vous citez le field recording. C'est quoi cet instrument, le Serge Modular?
Cet instrument, c'est un synthétiseur analogique qui a été inventé par Serge Tcherepnine en 1960, dans les années 70 à Collard, en fin de compte, dans l'idée de copier un synthétiseur qui était le Büchler. C'est un synthétiseur qui a des spécificités très particulières. Il a une logique aussi non linéaire, une logique un peu duale, quoi, et très intuitif. Il donne la possibilité de générer beaucoup d'anéa, des sons complexes.
Ça, c'est aléatoire un petit peu d'utiliser cet instrument.
C'est pas aléatoire, non. Mais il donne cette possibilité, en tous les cas, de développer beaucoup d'aléa et d'improviser énormément, en fin de compte. Il a beaucoup de subtilité en très peu de gestes. Enfin, voilà, c'est vraiment un instrument très particulier, quoi. Il a aussi une complexité qui se rapproche beaucoup des sons naturels et qui se rapproche aussi beaucoup de son instrument classique. Hein. On peut développer des tessitures très particulières, quoi.
Et qu'est-ce qui vous plaisait dans cette ambiguïté alors d'aller chercher cet instrument donc électronique qui peut être dans un son familier d'instrument réel, entre guillemets, et puis d'aller chercher du son de dehors?
C'était peut-être mélanger deux réalités, des choses reconnaissables en fin de compte, et en même temps des choses qui... C'était peut-être semer le doute ou éveiller un doute sur la nature des sons utilisés, en fin de compte. C'était vraiment entre le reconnaissable et l'inconnu, ce qui pourrait être un peu une sorte de transposition de l'état altéré dont je parlais tout à l'heure, justement, entre la présence et l'absence extrême, quoi.
Et vous dites que Feu, que ce premier disque est une forme de passage pour aller où?
Oui.
Alors maintenant,
ça c'est une vaste question, vers le je sais pas, le je ne sais pas.
Ouais. Je ne sais pas, mais pour quitter le ce que je sais,
peut-être pour remettre en cause ce que je sais, pour aller vers, comme disait Jean de la Croix, vers un savoir qui ne sait pas.
Mais ça veut dire quoi? Lâcher des influences, par exemple?
Lâcher des influences, oui, peut-être. Et puis se ramener... peut-être essayer de se rapprocher de ce guide intérieur que ce travail m'a permis de mettre en lumière, en évidence.
C'est un travail que vous avez fait essentiellement lors de résidences à Stockholm et à Bruxelles. Est-ce qu'il fallait être loin de Besançon?
En l'occurrence, j'avais pas l'idée de faire ce travail. Je suis pas allé en fin de compte à Stockholm pour réaliser ce travail, mais juste après le décès de ce proche, donc j'ai eu une réponse d'une résidence et j'ai commencé donc à travailler sur ce projet. Et puis à Bruxelles, j'ai continué à travailler en résidence dans un lieu qui s'appelle De la Charge à Bruxelles. Et là, on m'a proposé de réaliser un disque et je me suis mis à travailler donc à réunir toutes ces informations et à travailler sur ce projet. Donc il est en partie fait à Bruxelles, à Stockholm et puis dans mon laboratoire aussi, dans mon studio.
Et alors, l'autre question, c'est quand même pourquoi un disque? C'est-à-dire que, voilà, cette forme-là particulière, vous qui êtes un catalyseur d'énergie, vous êtes connu voilà, pour un travail d'édition, des travaux d'installation, tout d'un coup, il y a cette forme-là qui est à la fois très personnelle et en même temps très arrêtée, j'allais dire, voilà, le disque, pourquoi?
Ben, le disque, c'est une vaste question. Depuis 25 ans que j'ai commencé mon travail, j'ai jamais réalisé de disque, j'ai jamais eu envie de fixer quelque chose. Et puis là, justement, ça m'a donné envie de m'arrêter peut-être sur quelque chose et puis essayer de transposer ça. Je dirais pas d'exprimer, parce que c'est pas vraiment... J'ai pas cherché à exprimer quelque chose, mais à manifester, à transposer un état à travers quelque chose de fixé, quoi. Et c'est quelque chose qui m'a assez passionné, assez intéressé. J'ai toujours été assez passionné par les musiques enregistrées, en fin de compte. Une culture de musique enregistrée que de concerts, d'ailleurs.
Mais est-ce que ça signifie que cette matière-là va vous servir pour des performances, par exemple?
Oui, bien sûr. Oui, ça va servir à des diffusions, mais des diffusions qui sont à l'intersection de l'improvisation et de la diffusion, quoi.
Feu, donc, votre premier disque, Yvan Etienne, qui sort ces temps-ci. Quelque chose de tellurique aussi, pourquoi pas? Est-ce que ce mot-là, ça vous va? On vient de parler du buffet, et ce mot-là est arrivé. On voit l'image qui fait la pochette de votre disque, et il y a quelque chose de commun avec certains tableaux les moins figuratifs, les plus abstraits, dans la matière, justement, de du buffet. Est-ce que le mot tellurique vous va dans ces trois pièces qui font ce feu rituel?
Je dirais peut-être, oui, tellurique, mais peut-être cette idée, c'est plutôt l'idée de météore qui m'intéresserait, quelque chose qui se situe entre justement quelque chose de tellurique et puis une limite qui est le visible, qui est le ciel, d'une certaine manière, quoi. Enfin, c'est entre-deux. Mais oui, tellurique, oui, c'est vrai que de toute façon, c'est la base, on pourrait dire.
Exactement, voilà. Ground, on pourrait dire en anglais.
Ground, la prise de terre.
La prise de terre, c'est feu, une nuit, de la charge, la lueur, les trois morceaux. Feu, c'est le disque et c'est sur le label Aposiopes. Je vous ai dit, on a du mal à lire sur à l'intérieur. Non, c'est ça, le label Aposiopes. Et puis, il y a votre propre site aussi, w2yfree.fr, pour aller plus loin. Yvan Etienne, merci beaucoup de nous avoir présenté Feu. On se quitte en se plongeant dans Une nuit, donc, qui ouvre l'album. Merci à vous.
Merci à vous aussi.
l'histoire de son. Faut-il vous l'emballer ? Une histoire de son qui clôt comme d'habitude l'atelier du son. Une histoire vraie de son. C'est celle de l'écrivain Olivier Cadio ce soir qui nous fait un cadeau.
Oui, alors il était une fois... C'est délicat parce que c'était, dans mon cas, c'était, il était une fois tout le temps. Alors je ne sais pas quelle anecdote raconter puisque le son m'occupe beaucoup. En général, dans mes livres, il y a du son, mais c'est presque un son direct, j'ai l'impression. J'ai essayé jusqu'ici de faire entendre le plus possible, peut-être d'ailleurs le son de choses qui n'en ont pas d'habitude, peut-être, ou de faire entendre des sons là où il n'y en a pas. Et dans mon prochain livre, j'en parle de manière moins directe. Enfin, disons que je raconte, pour le coup, des expériences sonores. Alors justement, là, j'ai deux exemples. J'en ai un où un personnage qui se retrouve en Allemagne dans les années 80 a une expérience de bonheur. Et il se demande si cette expérience de bonheur vient de la qualité sonore de l'expérience. Et il se demande, et il dit, le soir, il se bardait de chaînes et de piercings amovibles. Il s'habituait à écouter des basses profondes, à rouler la nuit à bicyclette en regardant les lignes noires tracées par les roues dans la neige. Qu'entendait-il ? Le grondement paresseux et lointain des voitures ? Le grognement rythmé des vieilles dames en compétition vocale ? C'est ça qui lui plaisait ? Prenons pour vérifier dans la liste une autre expérience presque aussi heureuse. Il est étendu sur un lit dans une chambre noire l'été. Un trou dans le volet envoie un rayon aussi précis qu'un laser. Une flèche de poussière d'or en suspension traverse la pièce. On entend les cris d'enfants au loin, grincement des agrès du petit club installé sur la plage en circambulant, tambour profond des trampolines, fracas du bassin d'eau de mer pour apprendre à nager. L'ensemble ressemblait à une partition complexe avec solo brusque d'ultra-soprano enfantin, coup de contrebasse des balançoires, quart de ton de plainte de bébé, superposition de 36 appels en tous sens. Étendu dans le noir à écouter une musique involontaire qui grimpe accidentellement, ce serait ça le secret ? Installez-moi dans une chambre surplombant une cour d'école recouverte d'arbres. Mettez-moi dans une boîte et faites-moi entendre le bruit des hirondelles qui fondent sur un insecte à 1 mm des façades. Ce serait ça le bonheur ? Effectivement, il y a des endroits où c'est... On dirait que je fais... Enfin, le personnage a l'air d'être une sorte d'essayiste un peu bizarre. Et c'est un personnage dans ce livre qui réfléchit à cette célèbre phrase de Rimbaud, « La musique savante manque à notre désir ». Il dit que, malheureusement, aucune musique ne correspondait vraiment au moment que je voulais vivre ou célébrer. Si on pense que la vie ressemble à un film avec une symphonie dessous et qu'il s'agit de tout redoubler pour supporter mieux la douleur ou fêter une joie. On trouve facilement des extraits d'œuvres qui font souffrir les gens, en leur envoyant très fort dans une oreille du Donizetti et aussi fort dans l'autre, du heavy metal. On choisit aisément ce qui galvanise l'assaut, mais il est plus délicat de trouver celui qui correspond aux états confus dans lesquels nous vivons généralement tous. On n'est pas toujours soldat. Je rêverais d'une musique qui contiendrait toutes les qualités des autres. On devrait se la commander, obtenir un album qui s'appellerait... Popular Problems, un cocktail d'austérité et de joie dédié à chaque personne. C'est délicat. La musique savante manque à notre désir. Enfin, qui disait ça ? Est-ce que ça signifie qu'on ne trouve pas facilement de son capable de refléter nos passions ? Quelque chose qui s'occuperait de nous ? Une vraie savante qui en serait longue sur nos modes d'existence ? Une grosse tête capable d'avaler plusieurs vies ? Elle nous installerait un petit tremplin et hop, on ferait l'ange sur une poutre. À certaines manque l'ironie, à d'autres le tragique, enfin chacune est incomplète. Mais on peut dire aussi le contraire. Il se complique beaucoup, hein, ce personnage, il change d'avis. On peut dire aussi le contraire, elles nous ratent parce qu'elles sont trop entières. Même les plus abstraites sont terriblement figuratives. Elles ne disent qu'un univers à la fois. La voix de Bob Ashley est trop spéciale. Le hautbois de Schubert sonne comme un corps au fond des bois. Arizona ou Forêt Noire, je ne veux pas choisir. Un seul monde, on en veut plusieurs. Mais la musique savante, me manque, ça veut aussi dire qu'elle m'a manqué, alors elle me provoque. Du calme, on va pas se battre en duel avec la musique.
The war was lost, the treaty signed, I was not cut across the line, I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised.
Le cadeau de Cadieux, c'était ce double extrait de Providence. Son prochain livre apparaîtra en janvier chez POL. On peut parier qu'on en reparlera sous cette même latitude.
The story's told with facts and lies. I had a name, but never mind.
Sur Nevermind de Leonard Cohen, issu de son tout neuf album Popular Problems qu'Olivier Cadieux vient d'intégrer dans son texte, c'est la fin de l'émission qui était préparée et coordonnée par Inès Debrune, réalisée et cousue main par Véronique Lamandour. Au son, il y avait Valérie Lavalard, Guy Marquinan était à Bruxelles à la RTBF et à Besançon, le son était pris par Christian Leroy.
The war was lost.
En ligne, l'atelier du son se trouve sur franceculture.fr avec la réécoute, les compléments, le podcast et les commentaires. Dans un instant, vous retrouvez Aurélie Charron. Bonne suite de nuit à vous sur France Culture et à vendredi prochain.
Merci Thomas, bonne suite de nuit à vous. La semaine prochaine, voilà ce que vous pourrez entendre dans les ateliers de la nuit. Mardi soir, dans l'atelier fiction, Perception d'Ayad Fayez, enregistré à la Mousson d'été en août dernier. Nous sommes dans la tête d'une mère qui hésite à envoyer son fils clandestinement en Europe. Mercredi soir, ce sera une expérience radiophonique inédite, en direct, et vous êtes invité à participer, à appeler pour poser une question à l'oracle qui donnera une réponse immédiate à la radio. Voilà le numéro pour vos questions. 01 56 40 31 59. L'oracle est une soirée proposée par Manuela Morgan. Jeudi soir, l'atelier de création Dévore-moi. Camille Jusa explore la persistance de la peur du loup et la transformation de nos peurs enfantines. Enfin, vendredi soir, Thomas Baumgartner évoque dans son atelier du son de la médecine avec médecins, infirmières et musicothérapeutes. Je vous dis à lundi pour l'atelier intérieur, nous serons en direct de 23h jusqu'à minuit. N'oubliez pas que tous les ateliers de la nuit, fiction, documentaire, atelier du son, atelier intérieur, sont à réécouter et à podcaster, tout est sur le site internet de France Culture. Il sera bientôt minuit, c'est la fin de notre semaine Picasso et après, et vous entrez dans la nuit Picasso.